Shalom tout le monde. Donc nous reprenons au chapitre Vav, au verset Bet. Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer Elav ani Hashem. Elohim s'adressa à Moshe pour lui dire: Je suis Hashem. Vaira el Avraham el Yitzhak vel Yaakov vel Shaddai, Ushmi Hashem lo nodarti lahem. Je suis apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov en tant que El Shaddai, mon nom étant Hashem, je n'ai pas été connu d'eux. Vega makimoti et beriti itam. Et j'ai le devoir d'accomplir mon alliance avec eux. Quelle est l'alliance que Dieu a passée avec Abraham, Yitzhak et Yaakov? Comment tu sais? On l'a vu la dernière fois, mais c'est écrit aussi ici aussi. Vega makimoti et beriti itam, la tête la et eretz Kenan. Et je dois accomplir mon alliance avec eux, qui est de leur donner le pays de Kenan. Et eretz migurei asher garu ba, le pays de leur pérégrination, ils ont pérégriné. Et j'ai aussi entendu le soupir des enfants d'Israël que l'Égypte a servi, et je me suis souvenu de mon alliance. Quelle alliance? De donner la terre. La reine, c'est pourquoi. Et mort l'Ivine Israël, ani Hashem, vositi etrem, mitachat silot, mitzraim, mitzalti etrem, mavodatam, vegalti etrem, mizoran, toi, vishatim, gedolim. C'est pourquoi il faut que tu dises aux enfants d'Israël que comme je suis Hachem, je vais les faire sortir du fardeau de l'Égypte et les sauver de leur labeur. Et je les libérerai avec un bras étendu et de grandes merveilles. Ve la carte est très mille âmes, je vous prendrai en tant que peuple. Vaïti lachem Elohim, je serai pour vous un Dieu. Vidatem kiani Hachem Elohim, amouti etrem tachatsi sivot mitzraim. Ainsi vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu qui vous fait sortir du fardeau de l'Égypte. Veveti et tremelaret, sachant la satiété dit la tête de la Vraiment Sakuliakom, la tête de la Chemoracha ni Hashem. Et je vous amènerai sur la terre que j'ai juré de donner à Avraham, Yitzhak et Yaakov, et je la donnerai à vous en héritage. Je suis l'Éternel. Alors, si j'essaie de résumer ce qu'on vient de voir, Dieu explique à Moshe: je vais faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte parce que j'ai un devoir envers leurs ancêtres, qui est de leur donner le pays de Canaan. Donc pourquoi est-ce que Dieu fait sortir Israël d'Égypte? Pour donner le pays de Canaan. C'est la raison de la sortie d'Égypte. Maintenant, est-ce que les enfants d'Israël s'attendaient à ça? La réponse est oui. Évidemment, étant donné que leurs ancêtres, Yaakov et Yosef, leur avaient dit « Pakod ifkod Elohim etrem » Dieu vous visitera et vous fera sortir, vous ramènera dans le pays de vos ancêtres. Ça, c'est écrit en toutes lettres. Donc, il y avait une tradition chez les enfants d'Israël, comme quoi un jour viendra où ils sortiront d'Égypte. Un beau jour arrive Moshe. Il leur dit: bonjour, c'est moi que vous attendez. Les enfants d'Israël disent: c'est vrai, ça correspond à quelque chose dont nous avons un peu l'idée. Mais est-ce que tu as des preuves que c'est bien toi? Moshe dit: oui, j'ai des prodiges que je sais faire. Ah bon, montre. Il les montre. Pish, pas mal. Intéressant. On est prêt à continuer avec toi. Et puis, il est fait sortir d'Égypte. Les enfants d'Israël sont tout contents. Pourquoi? Parce qu'il a accompli la moitié de sa promesse. La moitié du projet qui était de sortir d'Égypte a été réalisé par Moshe. Qu'est-ce qu'ils attendent? L'autre moitié qui les amène en Canaan. C'est à peu près comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons passer au chapitre Yud-Tet. Avant le chapitre Yud-Tet, regardez au chapitre Yud-Gimel. Au verset Yud-Zayin. Chapitre Yud-Gimel. Au verset Yud-Zayin. Pour l'instant, nous ne nous basons que sur des versets, n'est-ce pas? Quoi? J'en sais rien, on va voir ce que disent les versets. Vayehi Beshalar Paro et Ta'am. Ce fut lorsque Pharaon renvoya le peuple. Velo nacham Elohim derech eretz Plishtim. Dieu ne les a pas conduits par le pays des Égyptiens, des Philistins. Kikarov ou bien que proche. Ki amar Elohim, peni nachem am birotam milchama veshavu mitzrayma. Parce qu'Elohim disait, de peur que le peuple ne soit, ne regrette d'être sorti en voyant qu'il doit faire la guerre et ne revienne en Égypte. Vayasev Elohim etam derech hamidbar yamsouf. Alors Elohim fit contourner le peuple par le chemin du désert en direction de la mer des joncs. Nous avons donc lu maintenant deux versets et demi. Qu'est-ce que disent les versets en question? Ils disent, les enfants d'Israël, le mieux pour eux aurait été de sortir directement par le pays des Philistins. Ils seraient donc entrés directement en Eretz Israël. Mais pour des raisons stratégiques, il a été nécessaire de faire sortir les enfants d'Israël par une autre route. Ils sont passés par le désert. Voilà, c'est ce que dit la Torah. Maintenant, nous allons passer à un autre type d'opinion, celui de la jardinière d'enfants. Si vous demandez dans un jardin d'enfants, religieux, juif comme il faut, l'enfant demande à la maîtresse, pourquoi est-ce que Dieu a fait passer les enfants d'Israël par le désert? Qu'est-ce qu'elle répondra? Pour donner la Torah. Ce qui est contraire à ce que dit la Torah. C'est-à-dire, la Torah nous dit que ce n'était pas dans le projet. Effectivement, dans ce qu'on a vu dans le chapitre Vav, le but était de sortir d'Égypte pour rentrer en Eretz Israël. Il semblerait donc que la Torah ne fait pas partie du plan. Ce n'est pas au programme. Et par la suite, on voit qu'ils passent quand même par le désert. Et dans le désert, ils arrivent au mont Sinaï. Là, nous allons passer au chapitre Yud-Tet. Chapitre Yud-Tet.
Comment c'est possible qu'ils savent Israël, que quelqu'un va venir les sortir des villes?
Ça, ils sont au courant, parce que leurs ancêtres leur ont dit.
Comment, devant un souffle, ils peuvent avoir un doute qu'on est venu pour mourir ici?
Ah ben, vas-y, voir que ça ne marche pas.
C'est-à-dire, ils peuvent douter que ça peut nous faire
un... Non, ils savent très bien qu'ils vont sortir d'Égypte un jour. Mais ils ne pensent pas que c'est que Moshe est l'envoyé. Ils se disent peut-être qu'il nous a trompés.
Devant
la mer rouge, il nous a pas encore fait sortir d'Égypte. Il y a encore Pharaon derrière.
Il
pouvait très bien. Ils peuvent se dire qu'il a menti. Il a amené, disons, des preuves de sérieux. Je sais faire des prodiges, mais ça prouve encore rien. Rambam le dit en toutes lettres. Ça prouve encore rien. Et donc, tant qu'il ne les a pas fait sortir d'Égypte, ça ne prouve pas qu'il sait les faire sortir d'Égypte. Une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, eh ben, ils savent qu'il les fait sortir d'Égypte. N'est-ce pas? Ils l'ont suivi parce qu'ils se disaient, bon, ça vaut la peine, on a vu, il a fait quand même pas mal de choses. Mais finalement, on arrive à la mer, et il y a les pharaons derrière, qu'est-ce qu'on va devenir? On va être massacrés. Chapitre Yud-Tet. Quoi? Il dit Avraham, Yitzhak et Yaakov. La M, la qui? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi elle s'appelle Kenan? J'en ai rien à faire. D'accord? C'est pas notre sujet. Je reprends ici au chapitre Yud-Tet. On pourrait parler de beaucoup de choses. Je me retiens d'en parler parce que c'est pas le sujet. D'accord? Bon. Chapitre Yud-Tet, verset Aleph. Bachodesh Hashelishi, Letzet Bene Israël, Meretz Mitzrayim, Bayom Azeh, Baum Midbar Sinai. Lors du troisième mois de la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, en ce jour, ils arrivèrent au désert de Sinai. Vaïsoum et Refidim, Vayavo Midbar Sinai. Ils voyagèrent depuis Refidim, ils arrivèrent au désert de Sinai. Vayachanou Bamidbar, ils campèrent dans le désert. Vayachan Sham Israël Negedahar. Israël campa là-bas, au pied de la montagne. Arrivent des journalistes. Nous sommes radio à Mon et Moab. Est-ce que vous voulez bien répondre à quelques questions? Alors, oui, un des Hébreux dit, d'accord, je réponds. D'où est-ce que vous venez? Dites ça à nos auditeurs. Eh bien, nous venons d'Égypte. Ah ah. Et qui c'est celui-là là, qui vous mène là au bout du campement? Il dit, bah, c'est Moshe. Et qui c'est ce Moshe? Bah, ce Moshe, bah, c'est notre Dieu qui l'a envoyé pour nous faire sortir d'Égypte et nous amener en Canaan. Et qu'est-ce que vous voulez faire après? Ben, nous voulons arriver en Canaan. Ah bon? Et pourquoi est-ce que vous campez là, au pied du mont Sinaï? Parce qu'on est en route, on ne peut pas marcher tout le temps, il faut bien se reposer un moment. Et combien de temps vous allez rester ici? Ben, le temps que Moshe dira, et puis on va continuer la route. D'accord? C'est-à-dire, c'est comme ça que les enfants d'Israël probablement réagissaient. Verset guillemets. Probablement, oui, je suppose qu'ils savaient où ça allait. Ils savaient très bien qu'ils étaient passés par le désert. Et d'ailleurs, on leur avait expliqué, parce qu'il y a les Philistins au nord, et que c'est embêtant là-bas, les Philistins, parce que vous allez devoir faire la guerre, vous êtes encore faible. Passez par le désert, après vous serez coincé, vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé de faire la conquête de Canaan. Verset guillemets. Où Moshe alla et la Elohim. Quant à Moshe, il monta vers Dieu. Ça veut dire quoi, quant à Moshe? Ça veut dire que pendant que tout le monde était en train de planter les tentes, de courir après une chèvre qui s'est échappée ou de changer les langes du petit, pendant ce temps-là, Moshe monte. Où est-ce qu'il monte? Je n'ai pas compris. On avait dit que quand on a une question, pour savoir ce que dit la Torah, on se base sur le texte de la Torah. Alors, qu'est-ce que dit la Torah? Il dit qu'il monte sur le mont Sinaï, vers Hachem. D'accord? Monter vers Hachem, ça veut dire quoi? Prophétiser. C'est-à-dire que Moshe, au pied de la montagne, monte vers Dieu. C'est-à-dire, il prophétise. Hein? C'est bien dommage. Oui? Quoi? Il y a écrit Moshe Allah. C'est-à-dire qu'il prophétise, c'est-à-dire qu'il se prédispose à la parole. Oui? Oui, bien sûr. Bon. Je ne sais pas, je n'ai pas encore lu la suite. Où Moshe Allah et la Elohim. Donc Moshe monte vers l'Éternel. Vaikra Elav Hashem Minahar. Et Dieu l'appela de la montagne, ce qui prouve qu'il n'était pas monté sur la montagne, puisque Dieu l'appelle de la montagne. Non, il monte pas sur la montagne. Il a une ascension spirituelle, et dans cette ascension spirituelle, il entend une voix qui l'appelle de la montagne. C'est tout bête. D'accord? Mais il est resté sur place, il n'est pas monté sur la montagne. Les morts en disant. Et alors là, il lui va lui sortir tout un message. Le message est un peu long, donc tenez-vous bien, accrochez-vous. Kotomar les bêtes Yaakov et Tagué d'une Israël, ainsi tu diras à la maison de Jacob et tu admonesteras la maison d'Israël, les enfants d'Israël. Atem ritem asher asitem asitil mitzraim. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et je vous ai porté sur les ailes des aigles et je vous ai amené jusqu'à moi. Et maintenant, veuillez bien entendre ma voix et observer mon alliance. Ici, quelque chose qu'on ne connaissait pas, il y a une alliance supplémentaire. Vous serez pour moi un joyau d'entre toutes les nations, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Elle est à dévarer, ma chère d'Aber el Ben Israël. C'est ça, les choses que tu diras aux enfants d'Israël. Oui? J'en sais rien. En tout cas, ce qu'il voit ici dans l'alliance, vous observerez mon alliance. Jusqu'à présent, il n'était pas question d'observer une alliance. Celui qui doit observer son alliance, c'est Dieu. Il doit nous amener en Eretz Israël. Là, il demande, il y a autre chose à faire. J'ai pour vous un nouveau rôle. D'ailleurs, regardez dans Rashi. Ushmartem et Beriti, chez Echrot Imachem, que je vais conclure avec vous, Al Shemirat HaTorah, pour l'observance de la Torah. C'est-à-dire que, brusquement, les enfants d'Israël apprennent qu'au Mont Sinaï, ils doivent être fidèles à un projet supplémentaire dont ils n'avaient pas la moindre idée. Ce projet est un projet de type spirituel et universel. Ça s'appelle, en un mot, la Torah. Imaginez-vous que vous êtes parmi les enfants d'Israël et que Moshe vient vous raconter tout ça. Regardez le verset. « Vayavo Moshe, vayikra l'ziknaam. » Moshe vint, il appela les anciens du peuple. « Vayasem lifnem et kolad varim aele asher tzivahu Hashem. » Il exposa devant eux ces choses que Dieu lui avait ordonné de transmettre. Mettez-vous à la place des Hébreux à ce moment-là. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous réagissez? D'abord, ce n'est pas au programme. On ne nous a jamais dit ça. Jamais nos ancêtres nous ont parlé d'une Torah. De plus, pourquoi tu n'en as pas parlé au départ? C'est un peu louche. Quelque chose ici est suspect. Peut-être que ce que tu veux nous donner là, c'est ta philosophie religieuse, personnelle, que tu as élaborée quand tu étais très loin de nous. Tu étais prince en Égypte. Et puis après, tu as été élève de Yitro en Midian. Ça fait déjà très longtemps que tu t'es séparé du peuple. Dans la solitude de ta bergerie, tu as commencé à penser des tas de choses. Et tu profites du fait qu'Akadosh Baruch Hu t'a véritablement envoyé pour nous faire sortir d'Égypte, nous amener en Canaan. Maintenant que nous sommes coincés avec toi en plein chemin, tu vas essayer de nous imposer ça. J'irai même plus loin. On peut aller plus loin ? Peut-être que s'il y a un Dieu qui te donne la Torah pour nous, ce n'est pas le même que celui de nos ancêtres, c'est un autre. Y aurait-il donc ici une divinité qui est montée en stop au passage, qui a enfourché les enfants d'Israël pour nous imposer une Torah qui ne fait pas partie du projet de nos ancêtres ? On va voir. Vayanu kolam yardav. Le peuple entier répondit. Vayomru, en disant. Kol asher diber Hashem naase. Tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Ce qui veut dire, non pas ce que tu nous racontes. On ne te croit pas. Qu'est-ce que fait Moshe quand il voit que le peuple refuse de croire en ce message.
Dans le passage d'avant, il n'a pas dit parler.
Oui, il dit, c'est Dieu qui me l'a dit. Peut-être qu'il l'invente. Nous savons que Dieu nous a donné une alliance, et cette alliance est très claire. Puis maintenant, tu te ramènes et tu nous dis, voilà, il y a ici un projet, Mamlechet Kohanim, Goy Kadosh.
Ils attendent que Dieu leur parle directement.
J'en sais rien, on va voir. Vayachev Moshe divrei Am El Hashem. Et alors Moshe ramène les paroles du peuple à Dieu. Ça veut dire qu'il ramène les paroles du peuple à Dieu. Il dit, j'ai été leur dire, ils n'ont pas voulu écouter. Qu'est-ce que je fais? Vayomer Hashem El Moshe. Alors Dieu dit à Moshe, Iné, voilà. Anochiba Elecha, Beave Anan. Je viendrai à toi dans l'épaisseur de la nuée. Baavur Yishma Am Bedabri Mark. Pour que le peuple entende que je te parle. Ils auront une foi éternelle aussi en toi. Parce que Moshe avait dit les paroles du peuple à Dieu. Remarquez une chose importante. Ça veut dire que ce verset prouve qu'il y avait un doute, en tout cas une remise en question de la part des enfants d'Israël contre Moshe. Et Dieu dit, puisque c'est comme ça, quand je te parle, ils ne veulent pas croire que je te parle, ils vont m'entendre te parler. Je viendrai à toi dans l'épaisseur de la nuée pour que le peuple entende lorsque je te parle.
Donc en fait, si ils avaient cru Moshe,
ce qui veut donc dire que s'ils avaient été confiants en Moshe, Moshe serait resté en bas de la montagne, il aurait donné toute la Torah. Non, c'est nous qui aurions eu un doute. Nous, actuellement, qui vivons aujourd'hui. Bien sûr, parce que, en fait, ça aurait été comme ce qui s'est passé avec Mahomet. Mahomet, un beau jour, vient voir des Arabes et leur dit « Dieu m'a envoyé pour vous donner une loi. » Comment ils ont réagi? Nous y croyons. Donc, ils n'ont pas demandé de preuves. Et donc, le seul organe de la transmission d'une parole ici, c'est Mahomet lui-même. Donc, il y a le doute. Nos ancêtres étaient intelligents. Ils ont dit non, non, non. On ne veut pas que ça passe par une personne en laquelle nous aurions confiance. Surtout que ça ne correspond pas à ce que nous avons, ce que nous savons par tradition. Et donc, on veut savoir si c'est vrai. Regardez ce que dit Rashi sur le verset « tête ». Là où il y a écrit « Et divrei ha'am ». Verset « tête » dans Rashi. Là où il y a écrit « Et divrei ha'am ». Teshuva al davarze. C'est une réponse à cette parole. Shamati mehem. J'ai entendu d'eux. Shiretsona mishma mimcha. Qu'ils veulent entendre directement de toi. Et no dome ashomea mipi shaliach. Les shomea mipi amelech. Retsonenu lirot et malkenu. Ça ne ressemble pas d'entendre de la bouche du délégué que d'entendre de la bouche du roi. Nous voulons voir notre roi. Ce qui prouve donc, pourquoi ce n'est pas la même chose? Parce que c'est plus fiable. Quand c'est le roi lui-même qui te dit, tu sais que le roi l'a dit. Tandis que si c'est un délégué, peut-être que le délégué ment. Ça veut donc dire qu'il n'avait pas la émouna en Moshe. Hein? Ça oui, ils sont d'accord. Vayaminu Pachem Moshe Avdo. C'est-à-dire, quand il dit qu'il est envoyé par Dieu pour nous amener en Canaan, pas de problème, il a fait ses preuves. Quand il dit qu'il amène la Torah, on n'en sait rien. Peut-être que c'est n'importe quoi. Peut-être que c'est un autre Dieu. Ça aussi, il faut savoir. Donc, vous voyez qu'il y a ici une dichotomie très forte entre deux missions différentes de Moshe. Oui. Si, ils le connaissent. Zéli Vandeu. Ils ont dit ça sur la mer Rouge. Peu importe. Oui, c'est ça que ça veut dire. Quand on dit Dieu, ça veut dire le dévoilement de Dieu. L'essence de la divinité est inaccessible en intelligence humaine. C'est pas de ça dont il est question. J'en sais rien pour l'instant. Pour l'instant, j'en suis au problème. N'est-ce pas? Bon.
Lorsque Dieu dit à Moshé, et à partir de quand il te croira à toi aussi, c'est pour tout ou pour la prochaine escale, pour le prochain...
On va voir. Je sais pas. Je sais pas, on va voir par la suite. Oui. Ah, très bonne question. Est-ce que Moshe était au courant qu'Hachem allait donner la Torah en route? Ça se discute. Rien dans le texte ne le prouve. Cependant, on a vu que lors du buisson ardent, et là il y a un verset très important, regardez la page, mais un petit tour en arrière au chapitre Gimel. Au verset Yudbet, chapitre Gimel, au verset Yudbet. Alors, ça traîne. Bon. Vayomer ki yaimach, je serai avec toi. Vezelecha haot ki anochi shelachticha. Et c'est pour toi le signe que je t'ai envoyé, c'est-à-dire la preuve que je t'ai envoyé. Botsiacha et Ami Mitzrayim, lorsque tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, Ta'avdun et Ta'elohim alahar azé, vous servirez l'Éternel sur cette montagne. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, sache que lorsque vous sortirez, je leur donnerai la preuve que je t'ai envoyé. Alors, cette preuve, c'est effectivement, je viens à toi, c'est ce que nous voyons dans notre chapitre à nous. Vous pouvez revenir au chapitre. C'est le fait que je viens à toi dans l'épaisseur de la nuée. Donc, c'est-à-dire que Moshe savait qu'il allait se passer quelque chose. Est-ce que ce quelque chose, Moshe, l'identifiait avec la Torah ou pas? Je ne peux pas le savoir. Oui. Oui. Ara Elohim. C'est écrit en toutes lettres là-bas.
Ah, moi, j'étais un peu, je comprends pas que tu
as hein? S'il était quoi? Ta'abdoun, ça veut dire vous ferez rendrez un service. Faire un service, c'est faire des sacrifices. Toute nation fait des sacrifices à son Dieu, c'est normal. On n'a pas besoin, d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait avec le Corban Pessah au moment de sortir. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de recevoir une mission spirituelle et universelle pour faire des sacrifices. Ça va de soi dans la culture de l'Antiquité. Oui. C'est vrai. C'est vrai. J'en ai rien à faire. La question est bonne, mais je ne peux pas en traiter maintenant. Oui.
Est-ce que ça vient de le a priori de Dieu, c'est-à-dire Dieu savait qu'il allait se dévoiler physiquement avec le...
Physiquement. Réellement, oui. Et alors?
Et on voit chez nous qu'il se dévoile parce que Amisraël demande. Parce qu'ils n'avaient pas demandé, le projet de Dieu n'aurait pas pu se réaliser.
Nahod. Ça veut dire que Dieu connaît les faiblesses du peuple, donc il sait à l'avance ce qu'ils vont demander.
C'est-à-dire qu'à posteriori chez nous, c'est à
priori. Exactement.
C'est une grandeur qu'une faiblesse.
C'est une faiblesse. La faiblesse, c'est d'avoir besoin de la Torah. C'est-à-dire, a priori, qu'on avait vu dans le livre, dans la paracha de Béchalach, il n'était pas nécessaire de passer par le désert. Donc, il n'y aurait pas eu de Matan Torah du tout. Mais même, d'après le texte, il y aurait eu Matan Torah, mais sans révélation. Alors, il a été nécessaire qu'il y ait Matan Torah et révélation à cause de la faiblesse du peuple. La preuve, c'est que nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ont accompli la Torah sans avoir reçu la Torah. Oui. Non, nous sommes passés par le désert parce que nous avions peur. Et oui, alors quand on a peur, c'est qu'on ne sait pas qui on est. Qu'on ne sait pas qui on est, on a besoin qu'on nous l'écrive. Imagine par exemple que quelqu'un a passé, Has v'shalom, un accident de voiture. Et qu'il retrouve ses esprits, mais il est amnésique. Il a oublié qui il est. Alors dans la rééducation, il porte avec lui un petit calepin dans lequel il y a écrit « Je m'appelle tel et tel, j'habite dans tel endroit, ma femme s'appelle comme ça et mon métier c'est ça. » D'accord ? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un papier de ce genre ? Parce qu'il a oublié. Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé. Nous avons oublié qui nous sommes. Donc, il a été nécessaire de nous l'écrire. Oui ? Un écrit, c'est en général ce qui fait oublier. C'est-à-dire, pour se rappeler de quelque chose, il faut surtout ne pas l'écrire. L'écrire, c'est à la place du souvenir. D'accord ? Hein ? Non. Si tu veux, par exemple, connaître une tradition, de Halakha, par exemple, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu interroges les vieilles grand-mères. D'accord ? C'est comme ça que tu sais quelle est la tradition. Si tu commences à regarder dans les livres, tu t'y retrouves plus. Oui ?
On voit que le peuple, il sait qu'ils sont censés retourner en Canaan. C'est la tradition qu'ils veulent retourner en Canaan. Ils ont toujours cette idée-là.
Oui, ils veulent aller en Canaan, c'est évident.
Ils ont dans leur tête le but d'arriver là-bas.
Oui, c'est vrai, alors.
Ils savent qu'ils doivent revenir là-bas.
Non, ils savent qu'il y a une promesse. Mais ils ne savent pas qui ils sont dans le sens. Ils ne savent pas ce que ça implique. Chez les Avot, c'était évident. Le comportement inné des Avot était l'application de la Torah. À leur niveau, à leur manière, évidemment. Mais, comme dit la Guémara, leur parole futile était plus grande que la Torah des descendants. Yafa sichatam shel avdei Avot, mitoratam shel banim. Même les dires futiles des esclaves de nos ancêtres étaient plus efficaces que la Torah des descendants. D'accord ? Oui. Par exemple, aujourd'hui, par exemple, je me promène. Un après-midi, je me promène. Puis je me dis, ah, c'est l'heure de Mincha. Qu'est-ce que je fais ? Ben, j'arrête la promenade, je rentre dans la synagogue, je fais la fila de Mincha et je continue. Il y a une différence entre la sainteté et la vie. La Torah nous raconte, « Vayetse Yitzhak la soir basade. » Yitzhak sortit pour se promener dans le champ, « Lifnot Erev » à l'approche de la soirée. La Gemara nous dit, ça c'est la prière de Mincha de Yitzhak. C'est-à-dire chez lui, il y a identité totale, harmonie totale entre la vie et la Torah.
Juste, du coup, vous avez dit que on avait peur, donc on est passé par le désert.
Oui.
Pour qu'on puisse nous écrire ce qu'on est,
oui,
par la Torah. Mais on voit qu'aujourd'hui, par la Torah, il y a beaucoup de gens qui, du coup, ne retrouvent pas vraiment ce qu'on est, qui se trouvent en disant. Donc, c'est ça qui essaie de nous rappeler.
Quoi, j'ai rien compris.
La Torah, c'est qui essaie de nous rappeler notre vraie nature.
On a besoin de savoir qui nous sommes, oui.
Et du coup, mais aujourd'hui, par la Torah, on voit qu'il y a. La Torah ne rappelle pas forcément à tout le monde.
Oui.
Oui.
Ouais.
C'est de base, son utilité de base.
Ouais. Oui. C'est donc un problème. Oui, d'accord. Bon, on y répondra par la suite si on a le temps. Sinon, ce sera cet après-midi. D'accord. Bon. Oui.
Comment Abraham et Sarah Jacob ont pu faire la Torah sans l'avoir reçue?
Parce qu'ils avaient une neshama gigantesque, une bombe, la neshama d'Abraham et Sarah Jacob. Tandis que nos ancêtres, ils sont passés par l'Égypte, l'esclavage d'Égypte.
Mais quand est-ce que Moshe a reçu la Torah? Est-ce qu'il a reçu les passages pour le bien?
Je ne sais pas. Les psukim qu'on a vus ne parlent pas de quand est-ce que Moshe a reçu la Torah. Or, ce que nous étudions, ce sont ces versets-là et pas d'autres.
Non, donc, là, on a passé que nous disait, c'est quoi la Torah? À elle, la chasse de la chasse.
C'est quoi ces paroles que Dieu lui a dit? De leur dire qu'ils vont conclure une alliance. D'accord? Et que cette alliance a une finalité de prêtrise et de sainteté pour le monde entier. D'accord? C'est ça que Moshe leur transmet. C'est pas le moment où il reçoit la Torah. Quand est-ce qu'il reçoit la Torah? Il faudrait trouver pour ça des versets dans la Torah qui nous disent quand est-ce que Moshe a reçu la Torah. D'accord? Or, comme ce n'est pas les versets que nous étudions, nous ne pouvons pas donner de réponse pour l'instant à ça. C'est vache, hein? Oui?
À la question, est-ce que Moshe savait ou pas pour la Torah? On a ramené.
Oui, mais ce verset n'est pas évident. Oui. Évidemment, rétroactivement, c'est ça que ça veut dire. Nous savons maintenant. Rachid connaît le texte. Rachid est beaucoup plus intelligent que moi. Il connaît des tas de choses que je ne connais pas. Mais moi, j'en suis pour l'instant au verset. D'accord? J'ai pas l'envergure de Rachid, moi.
Peut-être que pour Rachid, Moshe savait. Il explique ça comme ça.
Oui. Bon. Et j'ai des versets qui vont dans un sens contraire, c'est ça qui m'embête. Bon. Alors, si c'est vrai tout ce qu'on vient de dire, et d'ailleurs c'est ce que dit le Rambam le dit en toutes lettres, hein, ce que je vous ai dit là, c'est pas à moi. C'est dans, aussi bien Rashi qu'on vient de voir, que le Rambam et Rabbi Yehuda Halevi. Par exemple, le Rambam nous dit au verset, dans Ilkhot Yesodei HaTorah, au chapitre 8, je vais vous lire rapidement. Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire Moïse, notre maître. Lo heeminu bo Yisrael mipnei haotot she'asa. Israël ne l'ont pas cru à cause des miracles qu'il a fait. She'amamin al pi haotot yesh bilibo dofi. Parce que celui qui base sa foi sur des miracles garde un doute. Car il est possible que le miracle ait été fait par un acte de magie. Et là, alors pourquoi est-ce que Moshe a fait des miracles? Il a fait parce que c'était nécessaire. Pas pour prouver sa prophétie. Et il amène ici toute une liste de miracles que Moshe a fait et pourquoi est-ce que Moshe les a fait. Je saute. Alors qu'est-ce qui les a amenés à croire en lui? Ben Mahamad Ar Sinai, la cérémonie du Sinai. Shenenu Raou Velozar Veozenu Shamu Velo Acher, parce que nos yeux ont vu et pas les étrangers. Nos oreilles ont entendu et pas un autre. Haesh Vakolot Valapidim, le feu, les voix et les flammes. Vunigash Ela Arafel, alors qu'il entrait dans la nuée. Veakol Medaber Elav, et la voix lui parlait. Va nous shomim, nous entendions. Moshe, Moshe, lech emor laem karvechar. Moshe, Moshe, va leur dire telle et telle chose. Uminain shebe ma'amad ar sinai levado hi areaya linvoato shi emet shen bodofi. Et comment est-ce que nous savons que ce n'est que la cérémonie du Sinai qui est la preuve de sa prophétie qui est véritable et qui n'a pas de doute? Shenema, ainsi qu'il est dit. Il va nous amener un verset, le Rambam. Tiens donc. Voilà que je viens à toi dans l'épaisseur de la nuée. Ben, vous, Ishma, Bedabri, Imar, Vegambecha, Aminu, Lolam, afin que le peuple entende lorsque je te parle et qu'ils aient la foi en toi éternellement. Miklal, Shekodem, Davarze, ce qui nous prouve qu'avant cette chose-là, Lohe, Eminubo, Ne, Emanu, Cheomedet, Leolam, il n'avait pas en lui une foi éternelle. Et là, Ne, Emanu, Che, Shacharea, Iru, Marshava, ils avaient simplement une foi qui laissait la place au doute. Donc, vous avez vu que le Rambam a compris ce verset de la même manière que Rashi. Et également, on voit ça dans le Kuzari de Rabbi Yehuda Lévi, je vous ferai grâce de la lecture du texte. Alors maintenant, si tout ça c'est vrai, qu'est-ce qu'il doit dire le bon Dieu lors de la révélation du Sinaï? Il doit leur dire, bonjour, je suis Yudke Vavke, c'est moi qui a envoyé Moshe, vous pouvez le croire. Fin de démission. D'accord? C'est ça qu'on entend. Or, ce qui s'est passé, on a reçu, on a entendu des paroles, c'est vrai, mais il n'y a pas une seule fois mention de Moshe. Le Rambam nous dit qu'on entendait Moshe, Moshe, Lech est mort, mais dans le texte de la Torah, ce n'est pas écrit. Il y a des très belles choses, respecte le Shabbat, honore ton père et ta mère, ne tue pas, ne viole pas, etc. D'accord, mais ce n'est pas ça qu'on voulait entendre. Bizarre quand même. Regardez au chapitre Kaf, au verset Bet. Ben, j'ai envoyé Moshe, puisqu'ils ont besoin de la révélation pour savoir que Moshe dit la vérité. Et bien dans ce cas-là, il n'est qu'à nous dire, tout ce que vous dit Moshe est vrai. Point à la ligne, c'est fini. Oui, mais on veut voir pourquoi, pour savoir que c'est vrai ce que tu dis. Oui, mais c'est un peu, c'est ce qu'on appelle, c'est implicite ce que tu dis, mais c'est pas explicite. Regardons ce que dit la Torah. Chapitre Kaf, verset Bet. Anochi Hashem Elohecha, asher hotzeticha miretz Mitzrayim mibet avadim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Essayons d'analyser un peu, grammaticalement, syntaxement, ce que dit cette phrase. Cette phrase ressemble à une autre phrase. Bonjour, je suis Albert. Nous nous sommes rencontrés hier au marché. N'est-ce pas ? Anochi Hashem Elohecha, comment Dieu se présente ? Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, je suis celui que tu connais. Je t'ai fait sortir d'Égypte. Maintenant, pourquoi est-ce que Albert a besoin de se référer à la rencontre d'hier au marché? Non, parce qu'il n'a pas la même tête. Hier, il était habillé en bleu de travail. Mes tomates sont bien rouges, mesdames. Elles sont pas chères, elles sont très bonnes. Nouvelle arrivée, nouvel arrivage. Et puis aujourd'hui, je le vois en costume, avec une coupe de champagne en main, et un papillon, et du gomina sur les cheveux. Je me dis, c'est lui ou c'est pas lui? Albert se rencontre. Albert, c'est un exemple, ça peut être Georges. Et alors donc, Albert se dit, mais il a un doute celui-là. Je vais lui dire, tu sais, je suis celui que tu as rencontré hier au marché. Je suis le même. Maintenant, regardez ce que dit Rashi. Rashi sur Asher Otseticha Meretz Mitzrayim. Alors Rashi donne ici quatre interprétations différentes, trois. Nous allons voir la deuxième. Asher Otseticha Meretz Mitzrayim. Vous avez vu, Rashi, vous sautez une ligne. Davar Acher, autre interprétation. Lefi Shenigla Bayam Kegibor Milchama, c'est parce qu'il aurait été apparu sur la mer comme un héros de guerre. C'est-à-dire, le dieu qu'ils ont connu lors du passage de la mer Rouge est un dieu politique et militaire, qui a des finalités militaires. Donc de les faire sortir d'Égypte pour les amener en Canaan. Veniglakan Kezaken Malerachamim. Il aurait apparu ici comme un vieillard plein de miséricorde. Ils ont vu le Rav Naon. C'est-à-dire, ils ont vu brusquement quelqu'un qui donne la Torah, un Rosh Yeshiva. Alors, on va sauter encore deux lignes. Ho'il ve'ani mishtane bemarot. Étant donné que je change d'apparence, al tomerush terashuyoten. Ne dites pas qu'il y a deux dieux. Anochi hu, je suis le même. Asher otseticha mimitzraim, qui t'a fait sortir d'Égypte, ve'alayam, et sur la mer. Et sur la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet que je vous donne maintenant, qui est celui de la Torah, l'alliance dont je vous ai parlé, n'est pas une autre alliance que celle que vous attendez, dont vous attendez l'accomplissement, qui est de vous amener en Canaan. Vous ne saviez pas que ça veut dire la même chose. Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Mais moi, je viens vous dire que c'est la même chose. Je suis le même Dieu. Ce qui donc prouve qu'ils avaient un doute. Ils se demandaient, est-ce que c'est pas un autre Dieu que Moshe amène? Donc le fait que Moshe amène un Dieu pour leur parler, ça ne prouve encore rien. Ils veulent être sûrs que ça correspond au projet de leurs ancêtres. Ça veut dire qu'en fait, la révélation du Sinaï a été nécessaire pour transmettre un message d'Atileumi. C'est-à-dire que le projet national est équivalent au projet religieux. Et donc, en fait, il a fallu... C'est ça qui va prouver que Moshe est vraiment envoyé. Parce qu'il y a, dans le peuple juif, deux types de personnes aujourd'hui, les religieux et les chilonim, les laïcs. Et les religieux croient en Moshe. Et on demande aux religieux, mais qui c'est Moshe? Il dit, ben Moshe, c'est celui qui nous a donné la Torah, c'est pour ça qu'on l'appelle Rabbeinu. Et vous demandez à l'israélien chilonim, mais qui c'est Moshe? Moshe, ben c'est celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il pense dans cette histoire? Que c'est le même. Qu'il y a un seul Moshe. D'accord? Donc toute la révélation du Sinaï est là pour nous expliquer que c'est Moshe qui réalise en même temps deux idéaux différents. C'est tellement difficile à admettre qu'il y avait par exemple un juif du nom de Sigmund Freud, vous avez entendu parler ? Qui dans son bouquin sur Moïse et monothéisme a affirmé qu'il y avait deux personnages historiques dans Moshe. Effectivement, c'est ça que les enfants d'Israël se demandent. C'est le même. Eh bien, Dieu dit c'est le même. C'est bien clair pour l'instant ? Bon. Maintenant, il y a ici plusieurs points qui ressortent de ce qu'on vient de voir. Tout d'abord, que ceux à qui la Torah était destinée, a priori, ne la voulaient pas. D'accord ? Ça, ça répond à une critique bien connue, ce qu'on appelle la critique de la religion, qui est que les croyants ont inventé Dieu parce qu'ils en avaient besoin, et même plus, qu'ils ont inventé une révélation divine parce qu'ils en ont besoin. C'est-à-dire, c'est une nécessité de l'être de s'inventer une révélation, donc on l'invente. Mais qu'est-ce que dit le texte de la Torah qui nous parle de la révélation? Que ceux qui étaient destinés à cette révélation n'en voulaient pas. C'est un point important. Parce que ça veut dire que on refuse, c'est une idée que l'on refuse et qui est quand même imposée, c'est un signe de l'authenticité du phénomène. Quand est-ce qu'ils ont dit l'Assé Vénichma? Non, ils ont dit l'Assé. Yoshadi Berachem, là, c'est ce que Dieu a dit, nous allons faire. C'est pas l'Assé Vénichma. L'Assé Vénichma, c'est au chapitre Kaf Dalet. Ça n'a rien à voir. Le Assé Vénichma a besoin d'être analysé aussi. Mais c'est pas le Assé qui a écrit ici. Oui? Hein? Non, ça signifierait une manipulation très grave. Ça voudrait dire, nous savons, nous les auteurs de la Torah, nous savons que l'argument qui peut convaincre les critiques, c'est de dire qu'on n'en voulait pas, donc on va l'écrire. C'est pervers. Non, ils vont pas dire un truc pareil. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui transmet un texte de révélation ne va pas s'imaginer à ce point. Je vais aller plus loin. Il y a par exemple une tradition chez les Mormons. Les Mormons sont une religion d'Amérique qui affirme quelque chose d'assez incroyable. Vous connaissez la thèse des Mormons ou pas? Non, ça, hein? La thèse des Mormons, c'est la suivante. C'est que Jésus s'est révélé à un peuple d'Amérique il y a 3000 ans. Ce peuple s'appelait les Yarédites, les descendants de Yared, les ancêtres des Indiens. Ce peuple a disparu de l'histoire, mais il leur a révélé des tas de choses qui ont été oubliées d'ailleurs. Et après, 1000 ans plus tard, il s'est révélé en Judée, la deuxième fois. C'est le Jésus des évangiles. Mais au XIXe siècle, en 1836 je crois, un certain Smith se promenait dans les collines de l'État de New York et brusquement la montagne s'est ouverte et il a vu des tables en or sur lesquelles il y avait des hiéroglyphes qu'il ne savait pas lire. Mais il a reçu des lunettes d'or qu'il a mis sur les yeux et il a lu ce qu'il avait écrit. C'était les textes des prophètes de l'Antiquité de cette époque très ancienne. Et il a rendu les lunettes, la montagne s'est refermée, on ne saura jamais où c'était. Mais il a appris, écrit ce qu'il a appris là-bas, et c'est devenu le livre des Mormons. Voilà. Maintenant, tenez-vous bien, qu'est-ce qu'il y a dans ce récit? C'est important d'analyser ce récit. Vous avez une révélation à un peuple, il y a des tables de la loi, il y a une montagne, il y a un prophète. Hein?
Il y a de l'or.
Il y a de l'or. Bon. Maintenant, vous avez remarqué une chose, c'est que tous les éléments ne sont pas ensemble. Il y a un peuple, mais il n'existe plus. Il y a un lieu de révélation, mais on ne sait pas où c'est. Il y a un texte, mais on ne l'a pas vu. D'accord? Il y a des commandements, des prophètes qui ne sont plus là. Oui? Si, on
ne les a pas lus.
On les a pas lus, oui. Non, mais ce que je veux dire, ce qui est important ici, c'est que vous avez ici une réunion de tous les éléments de la révélation du Sinaï, avec une différence. Le peuple dont il est question de la révélation du Sinaï existe, on est là, tandis que le peuple dont il est question n'existe pas. Or, si je prends un peuple qui existe, donc une réalité sociologique que l'on peut... qui est tangible, que l'on peut palper, ça existe. Il y a un peuple juif. Ce peuple juif a une identité. Et je me demande comment est-ce que cette identité s'est formée. La manière dont l'identité se forme, c'est les traces qui sont restées dans l'être collectif par des événements fondateurs. Or, je n'ai pas de manière de comprendre le comportement de cette collectivité sans admettre les éléments, les événements fondateurs. Donc on peut dire le témoignage du Mont Sinaï est présent dans l'être même de la collectivité d'Israël. Si par malheur, Chas v'Shalom, le peuple juif venait à disparaître, alors il y aurait un débat qui commencerait à s'éveiller entre les académiciens pour savoir est-ce que le peuple juif a vraiment existé ou que c'est un mythe. Et dans la mesure où il a... mais s'il avait vraiment existé, alors, la tradition dont il parle est véritable. Mais on ne sait pas s'il a vraiment existé. Pour l'instant, le peuple juif existe, donc il n'y a pas de problème. D'accord? Mais ça, c'est un point qu'il faut continuer un peu à développer. Mais étant donné que nous sommes proches des publicités avant les infos, nous allons devoir nous arrêter là et continuer cet après-midi. Shalom. Alors.